Bienvenue dans l'Éclectique 18. Cette semaine, on parle d'automobile, de Nexus Player, d'économiser sur vos forfaits cellulaires et d'un super livre. Et tout ça, toujours dans la bonne humeur. Allez, bonne émission. Bienvenue à l'Éclectique 18. Ça me fait très plaisir de pouvoir diffuser avec une semaine de retard dû à des maladies à la maison. Et je suis très content parce que cette semaine, c'est un peu particulier. La diffusion se fait avec un enregistrement avec deux personnes. J'ai fait dernièrement un appel à tous dans les médias sociaux pour avoir des gens avec qui discuter, échanger, des gens passionnés dans chacun de leur domaine. Alors, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec des gens en ce moment et puis on va avoir de sacrées belles capsules dans les prochains mois, semaines pour l'Éclectique Show. Alors cette semaine, on parle d'automobile. Hein, on parle d'automobile, mais de plein d'aspects d'automobile. La vente au détail, des secrets, au niveau des applications aussi intéressantes, des secrets pour quand vous allez acheter une automobile pour pas vous faire avoir ou pour justement en tirer le meilleur parti. Alors, beaucoup d'automobiles cette semaine. Ensuite de ça, je vous ai fait une petite capsule, mon retour sur la Nexus Player que j'ai acheté dernièrement pour vos télés, pour pouvoir écouter de l'Internet, du YouTube, du Netflix, tout ça à partir, ou même jouer de cette petite console faite par Google. On va aussi parler, j'ai parlé avec le créateur de Plan Hub qui est une application site web qui vous permet de trouver le meilleur forfait mobile en fonction de vos besoins. Ça aussi, c'était un super cool échange que j'ai fait, une très bonne capsule que j'ai fait avec les gens de Plan Hub. Et puis, un super bon livre que j'ai commencé cette semaine qui m'a été référé par Mike de Niptech et qui est vraiment cool. Et il faut vraiment que je vous en parle et que je fasse un suivi sur plusieurs capsules par rapport à ça. Et puis, à la fin, quand vous allez écouter la capsule sur le livre, Maxime, qui était là pour la capsule automobile, était là avec moi. J'ai échangé avec et puis il nous a révélé quelques secrets pour être un bon acheteur automobile ou pour ne pas vous faire avoir lorsque vous allez acheter votre automobile. Alors, c'est ça pour cette émission. Je suis très heureux de commencer des capsules avec plein d'intervenants. Et on commence tout de suite. Alors, le premier sujet, c'est l'automobile. Maxime, est-ce qu'on peut dire ton travail, qui tu es, où tu vas, où tu vis, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le domaine de l'automobile?
Oui, exact. Depuis cette année, plus de 17 ans. Donc, 17 ans dans le domaine de l'automobile. Je suis directeur général des ventes d'un des plus gros concessionnaires au Canada, Mazda. Donc, un produit incroyable avec des technologies de pointe. Je crois que Mazda, ça interpelle tous les propriétaires d'automobiles par le look, par les justement la conduite. C'est le véhicule le plus européen, donc japonais. Fait que c'est vraiment un produit intéressant et je me spécialise au niveau de la vente de détail. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir.
Ouais, effectivement, on est en direct dans la chatroom. Alors, ceux qui veulent poser des questions, on se la pète un peu, on est juste 5. Fait que c'est très intime. Alors, qui es-tu? T'as répondu. Qu'est-ce que tu fais? Directeur des ventes. Directeur des ventes, ça consiste en quoi? Directeur des ventes, c'est le gars qui a le cigare en arrière du bureau, qui ouais, force exact. Des esclaves, qui les fouette ou?
C'est ça, c'est moi qui vais dîner 3 heures, puis en venant, je repars souper 3 heures, pour finalement dire, ouais, la journée était bonne. Fait que, on va aller se la couler douce. Non, du tout. Vraiment, mon emploi, c'est de former une équipe de vente, compétente, jeune, dynamique, qui va être capable de transmettre, la marque, donc de la meilleure façon, transmettre vraiment un plaisir qui est de se magasiner une voiture neuve. On sait de nos jours avec les coûts que ça représente, parce que c'est particulièrement important d'avoir des gens compétents. Il y a une multitude de compétitions qui sont disponibles dans les prix, c'est très dispendieux. Alors, contrairement dans les années 20, les années 40, où ce que la compétition se limitait à 2-3 différentes marques.
1-2-3 manufacturiers.
Ouais, exact. Où ce que là, souvent, les représentants, c'était des vendeurs, des peddlers. Ben aujourd'hui, je crois qu'on a laissé la place à des jeunes, des passionnés, comme en informatique, comme dans la plupart des domaines émergents. Ça prend vraiment des gens passionnés qui vont transmettre justement leurs connaissances de belle façon. On laisse la vente de côté, on représente le produit, on le fait aimer, on va chercher l'émotion. Puis par la suite, on parle de tarifs. Fait que c'est vraiment, c'est mon travail au D2D de m'assurer qu'on a les meilleures personnes en place. Qu'on va chercher donc les meilleures performances également devant.
Puis on parle beaucoup d'automobile, tu l'as dit, c'est une des plus grosses. Je pense que le chiffre, c'est quoi? Tu m'avais dit une fois, c'est la plus grosse dépense qu'un couple fait dans sa vie, hein?
Oui, exact. Parce qu'une maison, normalement, si on l'achète bien, ben on devrait rentabiliser.
Une auto, ça arrive pas, ça.
Une automobile, à moins que vous la gardiez 25 ans dans un garage sans la rouler, parce que j'ai vu dernièrement passer aux États-Unis sur un encan un Dodge Hemi qui a fait 969 000 US, qui avait été payé 3 000 à l'origine. Ça, on parle d'un
bénéfice. Ouais, le bénéfice est bon. Mais le gars avait sûrement mis beaucoup d'argent là-dessus.
Aucune a été remisée. Elle a été... dans le fond, il a été patient.
C'est juste ça.
Puis je sais pas comment il a fait pendant toutes ces années à pas rouler un véhicule aussi incroyable que ça a émis, qui développait près de 500 chevaux. Mais bref, ça a été rentable. On parle d'un cas rare, là. La plupart du temps, donc, dès que vous prenez le véhicule, vous sortez de la concession, ben on parle de 35% de dépréciation. Fait qu'on parle vraiment là de jeter de l'argent par les fenêtres.
Oui.
Mais néanmoins, c'est un plaisir. Fait qu'on le sait. Je pense qu'on en est tous conscients. C'est l'équivalent de se payer une bonne bouteille de vin. Puis de la boire.
Ouais, effectivement. Il y a j'ai un ami fiscaliste qui me donnait un truc en automobile. Si on veut pas trop perdre d'argent, son truc c'était, ben, tu vas me dire si ce que t'en penses, c'est d'acheter des véhicules quand même assez chers, haut de gamme, d'à peu près 3 ans. Les utiliser seulement 3 ans, de les revendre après. C'était le 3-3, là, c'est une technique d'un fiscaliste, puis qui disait que ben, t'avais toujours des bons véhicules qui avaient une certaine valeur, et puis en l'utilisant 3 ans, ben, tu risquais de moins perdre d'argent, surtout dans une grosse marque comme ça. Puis un véhicule de haut de gamme, assez chic, qu'à 6 ans, ça se vend beaucoup mieux qu'une Honda Civic qui a 6 ans, qu'une Corolla qui a 6 ans. Est-ce que t'as déjà entendu parler de ça?
Ben, j'ai déjà entendu parler. Par contre, je suis plus ou moins d'accord, puisque souvent les véhicules, lorsqu'on va parler de la 4e année, les véhicules haut de gamme n'ont plus de garantie d'origine. Donc, OK, oui, c'est beau, là. On risque d'avoir un bon retour sur notre investissement, mais lorsqu'on rentre au garage pour un simple changement d'huile,
ça va coûter plus cher.
300-400 $. Faire les freins sur un véhicule Lexus, Mercedes, c'est pas le même coût que faire les freins sur un Honda Civic. Donc, au bout de la ligne, on investit de l'argent. Si on est chanceux, on n'en mettra pas, mais c'est toujours un coup de dé. Je crois que la meilleure façon d'économiser dans l'automobile, c'est de pas s'en acheter.
Oui, ça c'est un fait. Au niveau des ventes, comment ça fonctionne? Est-ce que ça va bien? Dans les années, c'est quelles années où les gouvernements ont réinvesti chez Ford, GM,
Chrysler? On parle de 2009.
C'était 2009.
Ouais.
Est-ce que c'est revenu? Est-ce que les ventes sont bien? Est-ce qu'ils se sont placés? Est-ce que
ben,
c'est
si
revenu?
Si on parle des trois grands qui ont été touchés, ben Ford en faisait pas partie, mais du moins Chrysler et GM se sont placés. GM a été en mesure de rembourser son prêt au gouvernement canadien. Par contre, les ventes sont pas revenues au même niveau qu'elles étaient en 2009. On sait qu'ils ont diminué d'à peu près 30% des concessionnaires disponibles à l'époque en rachetant leurs franchises, en remboursant les propriétaires. Mais donc, ça a ouvert une porte aux Japonais qui ont saisi, puis les Européens, donc la place laissée par...
En Amérique du Nord.
Exact. Parce qu'on le sait qu'avec cette conjoncture-là, les manufacturiers nord-américains ont laissé tomber la location. La location au Canada, au Québec,
ouais, c'est ça, c'est faut
70%.
C'est quoi la location pour ceux qui sont en Europe là? C'est qu'on pouvait louer un véhicule sur du long terme, et qu'après ce terme-là, on leur a donné les clés au manufacturier.
Ouais, c'est un achat sur 36, 48 ou 60 mois.
Puis on payait la dépréciation uniquement.
Exact. Puis il y a une valeur résiduelle qui est garantie sur laquelle on ne paye pas les taxes. Et donc, le choix qui s'offre à vous à la fin de votre terme de 36, 48, 60 mois, c'est soit de préserver le véhicule, donc payer la valeur résiduelle plus les deux taxes, soit de remettre le véhicule ou de le revendre avec un certain profit. Donc, ça donne 3 opportunités plutôt qu'une seule en achat qui est de le payer jusqu'en entier.
OK.
On sait ici que c'est très présent.
C'est revenu parce que dans 2009, de 2008-2009, c'était tombé ça, parce que les manufacturiers pouvaient pas investir autant ou supporter des valeurs résiduelles aussi élevées que ça.
Exact, c'est que la plupart des gros manufacturiers avaient leur propre compagnie de finances.
Mm-hmm.
Et donc, avec le crash, ont dû vendre leur compagnie. Donc, ils se retrouvaient à être un client comme nous. Et donc, ils ne pouvaient pas subventionner les valeurs résiduelles, subventionner les taux. Donc, c'était plus abordable. Par contre, les Japonais avec une économie saine.
Ouais, Toyota a un bon trésor de guerre de plusieurs milliards, oui, hein, je pense.
Exact. On est en mesure de, eux, préserver la location. Donc, ils sont vraiment allés chercher une clientèle qui avait peut-être laissé de côté les Japonais. Ils ont amené chez eux, les gens ont découvert les produits, la qualité, et donc sont restés. Fait que, ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait 70% de location dans la plupart des marques. Là.
Ah oui, 70%. C'est revenu en fort.
Oui, oui,
c'est revenu vraiment
70%.
Fort. Mais ça dénote quoi? Ça dénote que les gens ont pas les moyens de s'acheter neuf ou qu'ils trouvent qu'il y a un réel avantage à louer plus de...
Ben, il y a un réel avantage, mais surtout, les gens ont compris que c'était une dépense.
OK.
Et donc, à partir de là, on utilise le meilleur du véhicule, qui sont les trois premières années.
OK, OK. Et puis le marché au niveau des ventes depuis 2009, ça avait quand même baissé dans beaucoup d'automobiles.
Ça a baissé dans certains créneaux, mais comme si je prends cette année, on a une excellente année, une année record
au global ou juste
chez au
global ou juste chez ton concessionnaire
Non, je parle globalement.
Globalement,
la plupart des manufacturiers vont très bien.
Oh.
Si je prends par exemple la vente de sport utilitaire compact qui est en augmentation de 22%.
Sur un sport utilitaire compact, ça correspondrait à quoi comme véhicule?
Sport utilitaire compact, on parlait de donc un CX-3 HR-V, donc ce créneau-là, le Nissan Rogue, qui sont des véhicules très appréciés.
De chez Mercedes, t'aurais quoi? Le X3 chez BMW, le Mercedes
le GL... X1 chez BMW.
Le X1 chez BMW,
donc,
OK.
C'est vraiment ce créneau-là. Donc, on parle d'un véhicule souvent qui est fait sur la plateforme d'une sous-compacte.
Un petit véhicule.
Qui est popé un petit peu, donc qui grossit avec une garde au sol plus élevée, qui donne l'impression d'un SUV. Là.
Fait que les gens achètent en Amérique du Nord du micro-camion. Là. On pense qu'on a un camion, mais dans les faits, ça n'en est pas un.
C'est une voiture, c'est une monocoque, ça peut pas tirer, ça n'a aucune capacité de remorquage.
C'est juste pour la visibilité, la sécurité.
Ouais, moi, j'aime dire que c'est, pour les anglophones, un soccer mom's car.
C'est quoi ça?
C'est un véhicule pour aller porter les enfants au soccer.
OK, puis, OK.
Souvent, c'est un excellent
deuxième véhicule. J'avais pas soccer le même...
Non, pas... Non, pas ce soccer-là, non.
OK.
Fait que c'est un véhicule qui est très apprécié, qui est disponible souvent en 4 roues motrices. Alors, les gens ont sécurité, l'impression, hein. le sentiment de sécurité. Puis bien sûr, avec les conditions climatiques au Canada, ben c'est très apprécié. Fait que c'est des gros vendeurs. C'est des véhicules qui sont quand même tout de même chers, qui vont représenter près de 25 à 30 000 $ d'investissement.
Incroyable.
Pour un petit véhicule.
Ah oui.
Mais donc, c'est ce qui marche énormément à l'heure actuelle.
Puis, pour faire une histoire courte, le salaire moyen au Canada, c'est quoi, à peu près 35, 40
000? Ben, j'ai su dernièrement, les données étaient aux alentours de 54 familiales.
54 familiales.
Donc, les deux, même s'il y a un enfant qui gagne une coupe de piastres. Hein,
ben... Un tonne de gazon. Ouais. Mais 54 familiales, puis le plus gros vendeur, c'est un véhicule aux alentours de 30 000 $.
Oui, puis souvent, c'est le deuxième véhicule de la famille.
Là. Oh, OK,
c'est
oui.
C'est ça qui est le plus... Mais en location, c'est un véhicule qui va revenir aux alentours de 225 $ aux deux semaines.
Ah, c'est donc l'avantage est là. Fait que t'as le véhicule dont tu rêves, mais au budget que t'es capable de payer.
Pleine garantie, pas de tracas, puis donc dans 3 ou 4 ans, on prendra de la décision. Si nos besoins ont changé, on redonne les clés, puis on part en neuf.
C'est vraiment, j'avais assisté à une conférence d'IBM, là, ça fait toujours bien placer dans une conversation. Là, le 15 ans. Et puis, il disait que... Déjà, 15 ans, disait que le marché automobile allait vraiment changer dans les années futures. C'est qu'on allait, puis eux autres parlaient peut-être pas de location, là, mais ils disaient qu'on allait plus se payer un service de développement, un service de déplacement. Fait que je fais un lien un peu avec la location. Dans les faits, c'est un peu ça. Là, tu te payes une auto qui est jamais à toi dans les faits, mais t'en tires le meilleur de la garantie, le meilleur de son vivant, puis le meilleur du service avec le concessionnaire, c'est ça. Ah, c'est intéressant.
Ben, j'avais vu de quoi également, un petit peu dans le même sens, qui pouvait être intéressant. Il y a une dizaine d'années, chez GM, on avait développé une plateforme.
Oui, c'est
que
vrai.
Tu en faisais l'acquisition, et elle avait une durée de vie limitée, mais on pouvait changer la carlingue qui allait par-dessus. Donc,
ouais.
Tu pouvais avoir une minivan pendant 4, 5, 8 ans.
C'est vrai.
Puis ensuite, avoir une voiture sport, avoir... fait que c'était un principe qui pouvait être intéressant, parce qu'on le sait que la mécanique... C'est immortel.
Puis, je me rappelle de ce concept-là, était super intéressant chez GM. C'est des gens, pour imaginer un peu, ça ressemblait à un gros skateboard dans lequel t'avais le moteur, t'avais la batterie, tout. Et puis, par-dessus, tu mettais la carrosserie que tu voulais. Fait que de base, c'était une plateforme avec 4 roues sur laquelle tu mettais la carrosserie que tu voulais. Toi, ce que t'achetais, c'était la plateforme avec les roues.
Exact.
Puis, tu mettais la plateforme que tu voulais. Puis, ils avaient même montré dans les concepts GM à l'époque qu'une famille pouvait acheter une plateforme puis deux carrosseries. Fait que la fin de semaine, t'étais avec les enfants, tu mettais la familiale par-dessus, le gros 4 4x4. Puis la semaine, t'allais travailler, tu mettais la petite voiture, deux places que t'avais besoin pour économiser.
C'est vrai que avec mes talents manuels, j'aurais aimé voir changer la carrosserie le samedi matin.
Oui, ça, c'est pas pour nous. Non, encore là, ça nous aurait coûté trop cher. On aurait payé quelqu'un pour nous le faire. En bout de ligne, on aurait été mieux d'acheter deux véhicules. Fait que ça, c'est le marché de la petite automobile au Canada. Du petit camion, ça va très bien. Au Canada, plus gros vendeur dans les petits véhicules, c'est toujours Honda Civic, c'est ça?
Oui, le Honda Civic est là année après année. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. On sait que les Coréens sont très présents.
Ouais.
Donc, on parle de Hyundai, de Kia, avec leurs produits qui sont à des prix très abordables, avec une qualité qui est somme toute hyper réussi, avec des technologies également. Tu sais, moi, ça me sidère toujours de voir que dans un véhicule de base, on a des sièges chauffants à l'arrière. À l'arrière, tu sais, c'est... Fait que on attire les gens dans ces marques-là avec des gugus, avec des gadgets que les gens ne croient que disponibles dans des véhicules très haut de gamme. Donc, c'est, je pense, une très bonne façon de faire de ces manufacturiers-là, comme on sait que la plupart des Kia ont des toits panoramiques.
On parle de Kia, coréen, c'est du Kia Hyundai, c'est
ouais,
ça?
Exact.
Et puis, toi, tu dis qu'ils attirent beaucoup avec des options qui sont traditionnellement chez les manufacturiers de haut de gamme.
Ben, c'est parce que, tu sais, souvent, les gens vont avoir encore une impression, tu sais, le vieux Hyundai Stellar tout pourri. Mais ouais. Écoute, c'est difficile pour ces manufacturiers-là de changer l'image. Mais donc, maintenant, ils offrent des produits avec une excellente garantie d'origine, mais surtout, ils offrent des gadgets, des options que les gens ne voient exactement, comme tu disais, dans les véhicules haut de gamme. Un toit panoramique, c'est impressionnant pour quelqu'un qui a une voiture, puis que ça soit là-dedans, wow, t'es assis à l'arrière, t'as accès à voir le ciel, puis la luminosité que ça crée à l'intérieur, c'est un gros wow. Ben, tu peux l'avoir dans un Sorento, qui est quand même abordable. Tu peux l'avoir, je regarde, là, les Kia Forte ont la possibilité d'avoir un toit qui est nettement plus grand que les véhicules japonais dans de la même gamme. Ben, ça fait une différence dans l'esprit de bien des clients.
C'est drôle parce que dans le marché d'automobile, c'est les Coréens qui arrivent en force avec des produits un peu moins chers. Ça a été un peu ça aussi au niveau de la tech. Toi puis moi, on a connu les baladeurs Sony. Sony, c'était japonais, vraiment les meilleurs de ci, de ça. Maintenant, c'est Samsung, le coréen, qui essaie de qui a ravi complètement. Puis on voit que Sony va pas trop bien en ce moment. Fait que là, le marché traditionnellement, alors le petit véhicule, c'est le Honda Civic au Canada. Ce qui se vend le plus ever au Canada, c'est quoi?
C'est le F-150.
Un camion.
Ouais, exact.
Un camion.
Puis année après année, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les ventes, il est calculé également les ventes faites au niveau donc fleet, là, les flottes de véhicules.
Le commercial.
Exact. Donc c'est sûr que la plupart des compagnies ont besoin d'un camion.
Ont-ils besoin vraiment?
Ouais.
D'un gros F-150.
C'est pas à croire.
Parce que moi, ce que je remarque, c'est de plus en plus dans les centres d'achat, on n'a plus moyen de se stationner parce que tous les F-150 sont stationnés sur deux stationnements d'auto. Fait qu'il n'y a plus de place. Tu t'en vas dans les centres d'achat de la région de Québec où les F-150 sont stationnés dans le gazon, un peu partout, là, parce que ça leur prend de la place. Puis, ce qui me fait rire, c'est d'en voir, tu sais, je sais pas si toi, t'as déjà vu ça, mais sur les autoroutes, ils sont pas mal tout seuls dans leur gros F-150. Les gens attractaient rien du tout, à pas mettre de bois dans la cabine. Pourtant, c'est
ce qui est le plus vendu. Il suffit de voir la finition intérieure pour se rendre compte que c'est loin d'être pour travailler. Là.
Ouais.
Tu sais, il suffit d'aller voir que ce soit un Dodge Ram Longhorn avec les selleries de cuir brodé là, comme un gant de baseball.
Comme un vrai sofa de maison. Là.
Ouais, exact. Puis même plus haut de gamme parce qu'on va chercher vraiment des cuirs résistants.
Des télés, des systèmes surround.
C'est fou.
Pour travailler avec des bottes, avec de la boue.
Ouais, exact. Je crois que c'est pour les travailleurs en habits, cravate.
Toi qui connais le marché, puis ben j'aime beaucoup la technologie. Toi qui connais le marché depuis 15 ans, ça fait 17 ans que tu dis dans le domaine?
Ouais, un petit peu plus, ouais.
Un petit peu plus. L'innovation, c'est quoi les grosses innovations sur la période de temps depuis que tu travailles dans le domaine automobile? Quelles ont été les grandes avancées, tout manufacturier confondu, la sécurité?
Ce qu'on a vu, c'est l'arrivée du hybride.
Oh,
bien sûr,
oui.
avec son coût élevé au départ, avec les performances qui étaient pas loin de celles d'une voiture à essence. Donc, est-ce qu'il y avait un avantage? Je sais que à sa lancée, le Highlander hybride, ça prenait un petit peu plus de 12 ans à rentabiliser la dépense en économie d'essence. Donc, tu devais le rouler à plus de 20 000 km par année pendant 12 ans. Pour rentabiliser, on s'entend que la plupart des consommateurs le gardaient pas 12 ans. Donc, est-ce qu'il y avait un effet intéressant, mis à part peut-être la pensée écologique? Je crois pas.
Économiquement, ça fait longtemps qu'on le dit, t'es mieux de t'acheter un petit Corolla qu'un véhicule hybride comme un Prius, là, parce que au niveau économie, c'est vraiment avoir la pince et le baril est pas assez cher pour justifier encore une fois la dépense.
Exactement. Puis lorsqu'on regarde les nouvelles technologies qui existent à l'heure actuelle, les moteurs sont très performants, comme chez Mazda, le SkyActiv va permettre une économie d'essence aux alentours de 5 litres au 100 km. Ouais, plug. Vraiment. Une économie d'essence de 5 litres au 100 km. Donc, ça prend un hybride qui serait ferré là, pour être un gros avantage compétitif par rapport à ça. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a vu, l'hybride avec ses batteries qui étaient plus ou moins durables.
Économie de carburant, en général, c'est l'économie de carburant parce que tu me parles de moteur à essence SkyActiv de chez Mazda qui consomme
5 litres au 100 km.
C'est ça.
0.5, 1 litre gros maximum par rapport à un hybride de différence.
Fait que nous, les Nord-Américains qui étaient habitués de mettre de l'essence, quand l'essence a augmenté, ben, il a fallu s'en virer de bord. On a des moteurs beaucoup plus économiques. Ça, c'est la grosse tendance que t'as vu depuis là-dedans. Exact.
Puis ensuite, bien sûr, les technologies à l'intérieur des véhicules. Ouais. L'avènement, je me rappelle, on vendait des systèmes de navigation à 3 500, 4 000 $.
Maintenant, mon téléphone fait ça.
Qui était plus ou moins efficace en plus, qu'il fallait updater à des coûts faramineux.
Oui, c'est vrai, parce que la carte est bonne juste une année.
Exactement. Puis donc, ça, j'ai vu également une grosse amélioration, les technologies à l'intérieur du véhicule, que ce soit, si on pense au cruise control adaptatif, le régulateur de vitesse adaptatif, on a ça maintenant dans des véhicules dans vingtaine de mille.
C'est quoi l'adaptatif? Le cruise control, c'est le principe de ça pour, je sais pas si vous avez ça en Europe, pour ceux qui écoutent, c'est que on est sur une autoroute, ça roule relativement tranquille, on est à 100, ici en Amérique du Nord, c'est entre 100 et 110, tout dépendant les états et les provinces qu'on doit rouler sur une autoroute. On appuie sur un bouton, ça bloque la vitesse du véhicule à une certaine vitesse. Quand il y a des côtes descendantes ou montantes, ben là, il y a les freins ou l'accélérateur qui embarquent. Mais là, il y a des nouveautés dans le cruise control. On appelle ça, nous, le cruise control.
Régulateur
de vitesse en français, ouais. Là, il y a l'adaptatif. Ça fait quoi, l'adaptatif?
Donc, l'adaptatif, il va, lui, avec l'aide d'un signal à l'avant du véhicule, ralentir si le véhicule qui est devant nous ralentit, ou accélérer, donc, si, par exemple, il y a l'espace, afin de toujours maintenir la distance. Donc, on sélectionne la distance qu'on désire garder, puis il s'en occupe à notre place. Donc, ça, c'est des belles avancées qu'on voyait il y a 10 ans dans des véhicules de 100 000 plus.
Ouais, c'est ça.
Et là, on est rendu dans des véhicules de près de 20 000 $ qui ont ces genres de technologies-là. Je regarde les clés à puce, donc les clés intelligentes qu'on a plus besoin d'appuyer, de starter, là, de démarrer le véhicule avec la clé.
T'appuies sur un bouton. De la minute que t'es dans l'auto.
De base, ouais, ça. Dans toute gamme, oui. Donc, c'est des belles avancées qu'on a vues. On a vu que les manufacturiers ont à cœur d'aller chercher les technologies. On les a développées dans des véhicules haut de gamme. On les met à la disposition des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants.
L'ABS aussi dans la sécurité, les coussins gonflables, l'ABS, tout ça, c'était avant juste dans des gros véhicules haut de gamme. Maintenant,
exact,
depuis...
C'était douteux comme performance, l'ABS. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai déjà connu un beau Tempest qui en était de
oui.
On sait pas ce que ça avait comme effet, mis à part faire bien du bruit. Donc, de nos jours, non, les véhicules sont impressionnants. Et c'est pour ça que le consommateur en a pour son argent. Je me rappelle juste en 97, une location d'un véhicule Tercel sans radio.
Oui, t'as travaillé chez Toyota aussi. Hein, ouais.
Ça représentait 230 $ par mois.
Ouais.
Et là, pour 230, on a un véhicule qui capte avec le profil audio, donc qui va prendre notre musique dans notre cellulaire sans fil. Il y a la téléphonie intégrée, vous avez les vitres électriques, les portières électriques, le télédéverrouillage, le start button. On peut en nommer là, pendant des heures et des heures pour le même prix qu'on payait il y a plus de 10 ans puis 20 ans. Là. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment un domaine qui est très abordable maintenant puis qui offre des technologies qui sont un gros « wow ». Puis tout à l'heure, quand je parlais de ma fonction, c'est justement de m'assurer que chaque consommateur a ce « wow ».
À ce « wow » effect-là.
Oui,
tout à fait. T'es un peu le Steve Jobs de l'automobile.
J'ai rien inventé, malheureusement.
Lui non plus, il inventait rien, mais il reprenait. Okay. Il reprenait. Donc, Maxime, on parlait d'automobile, on parlait que ben les avancées, toi, qui ont été notables pour toi, c'est ben, des économies de carburant. Alors, les manufacturiers ont réduit les consommations de véhicules, ont augmenté le bouquet d'options à l'intérieur de leurs véhicules. On et tout ça en maintenant les prix. Parce que tu disais Intercell.
Puis tu sais, là j'en passe parce que regarde, il y a des choses marquantes, la sécurité active, regarde également.
Les accidents arrêtent pas de les accidents graves arrêtent pas de diminuer grâce à tout ce qui est la sécurité active. La sécurité active, c'est les coussins gonflables, ABS, mais aussi passif, les tout ce qui est les poutrelles de sécurité dans les ports, des choses comme ça.
Tout à fait.
Qui font que ben en bout de ligne, c'est des choses qu'on voit pas nécessairement, mais qui font qu'on a moins de mortalité au niveau.
Moi, j'aime parler de ce qu'on voit plus précisément, ce que les gens ont remarqué. C'est comme, bien sûr, les transmissions.
Oui. Oui.
Il y a pas longtemps, on a une transmission, trois rapports.
Oui.
Et là, les gens, ils disaient toujours, ah, je vais m'acheter une transmission manuelle pour avoir une meilleure consommation d'essence. Mais de nos jours, ce temps-là est révolu parce que les transmissions automatiques sont plus efficaces que les transmissions manuelles. Donc, on va aller chercher des meilleures consommations d'essence avec une transmission automatique à 6, à 7, à 8, à 9 rapports. Écoutez, c'est rendu incroyable.
9 rapports?
Oui, il y a tellement de...
Automatique, 9 rapports.
Il y en a plus que ça, là, si on va dans les véhicules très haut de gamme. Mais c'est un gros wow que les gens ont fait dans l'automobile, un gros bond magistral à un prix qui restait le même.
C'est incroyable. Mais pour couper dans les mains, pour rester avec, parce que dans les faits, ça doit leur coûter plus cher. Ce qui arrive, c'est que les manufacturiers font quoi? Ils fabriquent dans d'autres pays, ils fabriquent avec des matériaux moins bons. Comment ils font pour arriver à ça?
Ben, on voit beaucoup l'émergence de manufacturiers qui fabriquent au Mexique depuis les 15-20 dernières années. Fait que c'est sûr que ça permet d'avoir un coût de production, un coût de transport qui est moindre. Également, c'était le gros problème des manufacturiers nord-américains lorsqu'il y a eu la crise en 2009. C'est qu'un employé chez GM coûtait avec les bénéfices marginaux 88$ de l'heure, quand un employé japonais coûtait la moitié moins.
Ouais.
Fait que c'est sûr que le manufacturier...
Puis mexicain doit coûter moins que le japonais maintenant.
Encore moins.
C'est ça, c'est ça.
Fait qu'on peut s'attendre. Puis on parle de véhicules chinois. Je serais curieux.
Des Chinois. Des Chinois. Je vais le mettre en post-prod, t'inquiète pas.
Mais les véhicules chinois, je sais pas combien ça coûte, là, quand on pense qu'une paire de Nike coûte même pas une pièce.
Non, exactement,
Fait que je sais pas. Puis là, il y a Tata Motor.
Un Indien.
Il y en a plein. Donc... ils doivent couper à quelque part, ça, c'est
sûr. Ils ont coupé ses salaires. Dans la qualité des matériaux, tu vois-tu une différence, ça, depuis des années?
Non, ça s'améliore. Les qualités des matériaux intérieurs, c'est impressionnant.
Ouais.
Les alliages utilisés sont bons. Ils doivent couper, j'imagine, sur la production. Puis la production de masse doit coûter moins cher aussi. Il y a beaucoup plus de robotisation. Après avoir visité l'usine de Mazda à Détroit, qu'on partageait avec Ford, dans laquelle était fabriquée la Mustang ainsi que la Mazda 6, j'ai été impressionné de voir comment que l'humain ça prend vraiment beaucoup de temps dans le processus avant qu'il y ait un humain qui intervienne.
Ouais. Moi, j'ai visité l'usine La Rouge des F-150 à Détroit. Puis, moi, j'ai toujours pensé dans une chaîne de production, je vais peut-être vous en informer, mais moi, j'ai toujours pensé que dans ma tête, on faisait 3000 véhicules blancs, 4 portes. 2000 véhicules bleus, 2 portes. Après ça, on faisait tout le temps, autrement dit, des séquences de véhicules identiques. Mais c'est plus ça du tout. C'est que là, ils ont coupé dans ces productions-là de masse qui ne servent à rien pour réduire les stocks au maximum. Et ce qui est fabriqué, ce qui m'expliquait chez Ford, F-150, ce qui est fabriqué en live quand on le voyait à l'usine La Rouge, c'était ce qui était vendu. C'est que les options que la personne ou l'humain mettait, alors là, il y avait une personne qui était spécialisée à mettre des tapis dans les Ford, ben là, elle mettait du tapis pour du 4 portes, elle mettait du tapis pour du 2 portes, elle mettait du tapis pour du King Cab, et ainsi de suite. Mais elle, sa job, c'était juste de mettre du tapis. Puis tout ce qui passait en avant, c'était des commandes ou des prévisions avec des algorithmes qui savaient que ce qu'ils fabriquaient là, une grosse majorité, ils allaient le vendre. Je me rappelle dans le temps où ils fabriquaient des voitures avec des couleurs un peu bizarres, avec des bandes de décoration sur les véhicules sur les côtés un peu bizarres qui se vendaient jamais. Maintenant, on en voit de moins en moins dans des véhicules farfelus comme ça.
Puis c'est exactement ce que j'ai perçu dans l'usine. C'est que tu pouvais avoir un Mazda 6 4 cylindres 2.5 litres qui était fabriqué, puis immédiatement derrière lui sur la chaîne, t'avais un Mustang 5 litres.
Ah oui, deux marques complètement.
Deux choses bien différentes là, tu sais, tandis qu'auparavant, ben c'est ça, il faisait une batch de blanc, puis était des blancs 4 cylindres, puis il se cassait pas la tête, est-ce que ça se vend pas. Mais principalement, c'est parce que le client du manufacturier, c'est chaque concessionnaire. Fait que nous on commande ce qui se vend.
Exact.
Parce qu'au préalable, Il fabriquait des voitures, puis il les vendait par la suite.
Là, c'est pour ça que dans le temps, on pouvait avoir des rabais sur des voitures avec des couleurs farfelues en fin d'année, parce qu'ils n'étaient pas vendus.
Mais ça aussi, il y a une autre raison. Souvent, les gens me disent hey, « Pourquoi le véhicule, il est jaune? C'est quoi l'idée d'un véhicule jaune? » Ben, ils vendent plus de véhicules dans l'État de la Californie qu'au Canada annuellement. Donc, c'est sûr que les choix de couleurs, souvent, dépendent beaucoup plus des Américains et des Californiens que des Québécois et encore moins des Canadiens. Fait que ça explique des fois des équipements bizarres qu'on peut retrouver dans un automobile.
Bon, fait que ça, on a parlé un peu de ce qu'on connaît. On va arriver un petit peu. On va arriver dans deux aspects. T'as-tu entendu dernièrement dans les actualités, maintenant les voitures sont tellement bourrées d'électronique qu'elles sont piratées.
Ouais, exact. Jeep, c'est arrivé le cas là du
Jeep, modèle, Tesla aussi. Normalement tout. Est-ce que vous voyez des nouveaux problèmes avec les nouvelles technologies qu'il y a dans les véhicules? Je me rappelle une fois, tu m'avais dit, il y a certains clients qu'on leur on pré-règle un poste de radio à l'achat, puis quand ils nous ramènent le véhicule 5 ans plus tard, ça a pas bougé. Maintenant, exact. C'est plus ça du tout là comme réalité. Là.
Mais non, mais ça se vit encore parce qu'on oublie de penser que pour une certaine catégorie de gens. Que ce soit de changer de poste, ça peut être un problème. Oui. Et là, je regarde, les véhicules sont tous hyper pleins de gadgets.
Êtes-vous obligé de donner des cours d'informatique, des fois, de techno?
Auto est beaucoup plus complexe qu'elle l'était.
La livraison d'un auto, là, c'est un exercice. C'est un exercice chez le concessionnaire où il reste avec toi lorsqu'il te fournit le véhicule. Il reste avec toi 1 heure, 2 heures, 3 heures. Des fois, tout dépend
de l'équipement. Ça dépend de l'équipement du véhicule. Mais, ouais. Je me rappelle, il y a près de 15 ans, ben, ça prenait peut-être 15 minutes dans le véhicule. Voilà le volant. Voilà. Vous avez voilà le démarreur, le frein, essayer de pas frapper personne.
Ouais.
Mais là aujourd'hui, juste la connectivité Bluetooth, expliquer comment donc faire l'appareillage avec le téléphone, c'est déjà en soi un exploit pour certaines personnes parce que c'est
certains véhicules aussi, des fois sont plus difficiles les uns que les autres.
Complexe. Et lorsqu'on tombe maintenant à des navigations, ce que je parlais tout à l'heure, 3 500 $, aujourd'hui pour moins de 400 $, vous avez une navigation dans l'écran de votre véhicule. Donc c'est un gros wow, puis on est loin là de ce qui se vendait auparavant. L'efficacité, je prends également, il y a beaucoup de véhicules maintenant qui offrent CarPlay, donc avec votre iPhone vous pouvez vous connecter et avoir le contrôle.
As-tu essayé? Est-ce que c'est, moi j'ai pas essayé ça, CarPlay?
Non, c'est fantastique, ça marche très très bien. Si je regarde également, on peut avoir accès à des applications là comme Stitchers puis AA. Fait que ça donne
C'est quoi Stitchers AA?
Stitchers AA donne la possibilité d'avoir des nouvelles internet, d'avoir de la radio internet, donc on oublie le Sirius XM là.
C'est fini ça, la radio satellite, d'après moi, j'ai été voir les prix dernièrement à 19 $ par mois quand tu vas avoir un Spotify à 10 $ ou exact. Même à Apple
Puis maintenant justement avec CarPlay, vous pognez Spotify ou vous pognez Apple Music.
Ouais.
Dans mon cas, j'ai Apple Music, je trouve à 10 $ qui est fantastique, qui permet de faire des playlists puis de pouvoir les écouter hors ligne.
Exact.
Mais je sens les likes, hein. Puis avec ma Apple Watch, je peux changer les chansons. Hey, tu me demandais pourquoi j'avais une Apple Watch, je passe du coq à l'âne.
Ouais, du coq au vin,
mais du coq au vin. Mais donc c'est parce que j'ai un bateau l'été, tu sais que c'est une de mes passions.
Ouais.
Et j'ai la connectivité Bluetooth. Et à partir de là, je mets Apple Music.
Sur ta smartwatch.
Ça me permet donc d'être dans l'eau, de chiller avec les gens, prendre un verre. Oh, la toune est pas bonne, je la change.
Ouais.
Parce que je traînerais pas mon iPhone dans l'eau, bien sûr. Là. Mais la Apple Watch qui va à l'eau, hein, ben il est pas marqué nulle part, mais je l'ai testé cet été. Elle va à l'eau.
Ouais. Okay.
Je me baigne avec, je prends ma douche tous les jours, puis elle a pas brisé. Alors ça, c'était le petit point.
Et puis t'as pas, y a eu certains là qui ont eu des problèmes avec le savon dans la crâne.
Ah, j'utilise pas de savon, j'ai.
Ok, c'est bon, parfait. Fait que au niveau automobile, là, les gadgets, là, la présentation des véhicules avec les clients, ça devient de plus en plus ardu. Faut quasiment donner des cours.
Ben, c'est ce qui a créé le poste de spécialiste à la livraison.
Vous avez
pas dans mon temps. Donc, on a une personne qui est en place pour justement prendre le soin d'expliquer. Parce qu'on le sait que les vendeurs, souvent, c'est pas leur force d'expliquer. Hein,
non, eux autres, une fois que c'est vendu, ils veulent plus t'en voir. C'est ça encore?
On changera pas. Un vendeur, c'est un vendeur. Mais c'est pas vraiment le point qu'il veut pas t'en voir. C'est que son potentiel maximal pour une concession, c'est qu'il soit sur le plancher des ventes.
Ouais. Alors, donc,
on veut pas en train de le livrer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Puis, pour nous, bien sûr, c'est important que le client ait une excellente expérience.
Fait qu'il y a une personne qui se spécialise à livrer.
Va passer le temps nécessaire afin d'expliquer toute la panoplie d'accessoires. Donc ça a été créé avec l'avènement des technologies des voitures.
Incroyable. Alors, au niveau des piratages dans les automobiles, maintenant, j'imagine au niveau en arrière du garage, il doit y avoir des geeks, des informaticiens sur des ordinateurs. Maintenant
ça s'appelle plus des mécaniciens, on le sait.
Non?
Non, c'est devenu des techniciens avec l'avènement justement de l'électronique. Puis maintenant, on répare plus de pièces, on les change.
Non, OK, il n'y a aucune réparation qui se fait.
Ben,
pratique, c'est rare.
J'ai pas vu de coup de marteau, ça fait longtemps, là, afin de redresser
une pièce.
Mais donc, ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est des techniciens. On connaît que le véhicule, on est en mesure de savoir exactement le diagnostic. Et puis là, bien, ce qu'on voit arriver, bien sûr, c'est de l'électronique, donc ça brise. J'aime toujours faire le parallèle aux gens qui m'appellent puis disent « Hey, c'est pas normal, mon écran dans mon véhicule fonctionne moins bien. » Si ça, je dis « Laissez votre téléphone cellulaire sur le banc de neige. » Puis essayer de le réallumer le lendemain. Vous allez voir s'il va bien fonctionner. C'est de l'électronique, il y en a de plus en plus. Donc
c'est vrai qu'on laisse jamais nos iPhones dans le congélateur toutes les nuits.
Exact. Puis c'est ce que Jeep a dû vivre un peu. Hein. C'est de l'électronique. Donc, il y a des geeks, il y a des gens compétents qui font que essayer de trouver un petit peu une faille. Et là, ils ont découvert qu'avec donc la connectivité des réseaux,
ils ont pu
être capables d'avoir donc une connectivité directement
sur les freins ou sur le guidon, ou sur le volant. Ça. Hey, dis-moi, t'es un peu au courant de ce qui se passe dans le monde de la vente au détail, ça va pas trop bien. Target au Canada, ça a ouvert un an, ça a fermé aussitôt après. Il y a des gros bouleversements qui se font dans la vente au détail. Mais là, typiquement, des magasins qui vendent des vêtements, des magasins qui vendent de l'épicerie, tout ça, il y a des gros bouleversements. Dans le monde de l'automobile, je me dis que ça doit être à peu près la même affaire. Moi, je sais très bien que je magasine beaucoup sur Internet, puis que finalement, le commerce, quand j'y vais, c'est juste pour acheter le produit. Le service, un peu pour la garantie, mais j'ai pas nécessairement besoin d'avoir un vendeur qui m'explique, parce que je me suis informé beaucoup. Ça a-tu changé, ça aussi, au niveau de la vente chez vous?
Non, ça a pas changé, puisque l'automobile reste un produit d'émotion.
Oui,
comme on le disait, c'est un produit qui est dispendieux. Donc, si on laisserait ça à Internet de faire la job de vente, fort à parier que les gens auraient de la misère, parce que ça prend toujours une poussée dans le dos, tu sais, pour signer. On a besoin.
Ouais.
Aller dans un magasin, puis s'il n'y a pas de vendeur, là, vous allez regarder, puis fort à parier que vous allez ressortir sans rien acheter. Mais des fois, quelqu'un vient de vous dire bonjour.
Ah, le côté rationnel est meilleur quand t'es tout seul, effectivement. Tandis que quand il y a
quelqu'un... C'est facile de se convaincre, j'en ai-tu vraiment besoin? Non, ben t'en ressors, tu viens d'économiser. Fait que dans l'automobile, c'est un petit peu pareil. À partir de là, tu viendrais voir un produit. Un, est-ce que tu peux savoir s'il est vraiment adapté pour toi? Oui, t'as fait tes recherches, mais donc
tu l'as pas essayé, tu l'as pas vu.
Est-ce que tu connais vraiment les trois modèles? Est-ce que il y a une panoplie? Le vendeur a vraiment sa place.
Encore, tu penses qu'en 2015 le vendeur a sa
Encore
place?
Encore plus.
Mais, elle est différente. J'imagine que les gens sont plus informés. Fait qu'au niveau de l'argumentaire, ça doit être complètement différent que dans les temps.
C'est sûr.
On donne plus des coups sur le pneu en disant « il va bien ce char-là ».
Ben exact. C'est pour ça que je disais maintenant, ça prend des passionnés, ça prend des gens qui sont compétents.
Ouais.
Lorsque j'ai commencé dans l'automobile, notre meilleur représentant, il connaissait pas les moteurs. Lorsque quelqu'un posait une question puis disait « quelle sorte de moteur qu'il y a dans ce véhicule-là ?» Un bon moteur. C'est quoi la différence avec l'an passé? Un an.
Okay.
Tu sais, c'était des réponses de vendeurs comme ça. Ben écoute, c'est quoi le rapport de différentiel? Il disait, ben, un bon rapport, c'est le même que votre auto. Tu sais, il connaissait pas les automobiles, mais là, maintenant, on peut pas se permettre parce que les gens, ils sont plus informés.
Ouais, c'est ça.
Les gens, il y a 10 ans, faisaient 10 concessions en moyenne avant d'acheter.
Maintenant?
Maintenant, en font 2.
Oh! Parce qu'ils ont fait les 8 autres sur Internet, j'imagine.
Ouais, exact. Ils ont été voir les prix. Puis ça a un autre aussi danger, parce que bien sûr, le manufacturier met les prix de détail. Fait que des fois, les gens vont aller voir un véhicule, vont dire « Ah, c'est donc bien hors prix. »
Mais c'est pas le vrai prix. Vous l'avez meilleur marché, des fois.
Des fois, il y a des promotions. Fait que c'est important de se déplacer en concession avant de se faire un choix afin d'aller, un, l'essayer. Parce que, vous savez, quand on n'aime pas quelque chose, tout est cher. Puis quand on l'aime, des fois c'est moins cher, même si que ça paraît, hein. Il suffit de. Moi, je sais bien que ma dernière copine, je l'ai amenée manger au restaurant la première semaine, ça a coûté un prix dérisoire, c'était pas cher. Puis quand on s'est laissé, elle est partie avec une fourchette, puis ça me faisait. Fait que c'est un petit peu le même
risque. Ok, je comprends un peu l'idée. Fait que le il y a des nouveaux postes qui se font dans la vente, il y a des nouveaux types d'emplois qui se font en arrière dans la réparation, c'est plus pareil du tout. Au niveau de la technologie, c'est toujours soit hybride présentement ou soit moteur à combustion traditionnelle. L'électricité, est-ce que ça commence à en parler dans votre domaine? Est-ce que vous en entendez parler? Est-ce que il y a des produits intéressants? Est-ce que c'est une menace ou le prix est tellement exorbitant que c'est pas encore
l'électricité est super intéressant. Je regarde Tesla qui permet d'offrir des performances incroyables, mais on parle de prix aussi incroyables. Sans compter à l'heure actuelle, dans un pays comme le Canada, je crois que c'est l'autonomie qui est pas intéressante.
On a des longues distances, nous autres.
450 km d'autonomie.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même restreint. Puis sans compter que, oui, c'est beau, l'électricité est quand même abordable, là, mais c'est pas donné, là, tout de même. Là.
Non, c'est pas donné, mais ça reste quand même beaucoup moins cher. Les moteurs sont beaucoup moins complexes que des moteurs à combustion. Mais encore là, une fois que c'est dit, le prix d'un petit véhicule à essence traditionnel coûte beaucoup moins cher qu'un véhicule à électricité. Encore ça, encore une fois, par exemple, t'as bien raison, l'électricité, c'est pas donné. Chez nous, oui, c'est donné. En Europe, c'est pas donné. Chez nous, ça vaut la peine des véhicules électriques parce qu'on a de l'électricité qui est produite, qui est renouvelable. Aux États-Unis, quand t'as des usines à charbon qui produisent de l'électricité ou que t'as de l'usine nucléaire, ben ça vaut peut-être pas la peine au niveau de au niveau planétaire.
Très rare, on s'en
au niveau planétaire, ouais, exactement. Fait que pour nous au Québec, ça vaut la peine, oui et non, dans le fond, parce que les distances sont pas réalistes par rapport aux autonomies de véhicules. Puis pour brancher un véhicule, généralement, c'est pas quoi, une heure ou deux ou 10 heures.
Ben maintenant, il y a des superchargeurs
de Tesla
qui permettent de diminuer. Mais écoutez, ça risque d'être une technologie incroyable dans quelques années. Mais j'ai hâte de voir le véhicule de Tesla qui va être abordable, là, leur sport utilitaire à 30 000, là, puis de voir le service ainsi que la qualité du véhicule.
Écoute, aujourd'hui, on est le 22 octobre. Customer Reports, qui est l'équivalent Protégez-vous québécois, qui est l'équivalent du Protection de consommateurs en France, vient de déclasser la Tesla Model S. Parce que sur 1500 ventes qui ont été faites, il y a des gros problèmes de fiabilité. Beaucoup de moteurs sont changés sur garantie, des poignées qui sortent pas parce que Tesla, ouais, la poignée sort pas, des problèmes de finition. Ça, c'est des erreurs de débutants. On c'est sûr que ça va être corrigé chez Tesla, mais la vente de masse pour ces petits fabricants là va leur frapper dans la face, et puis bon, ils vont s'ajuster. Est-ce que vous en parlez des Google Cars, des Apple Cars qui vont arriver dans votre domaine ou dans un horizon de 20 ans ou...
Ben pour l'instant, c'est tellement fragmentaire, c'est lorsqu'on regarde les manufacturiers qui sont là depuis des années, on est implanté, on a un réseau de concessionnaires, tu sais, justement on parle de Tesla n'a pas de réseau de concessionnaires,
c'est
il s'en vante puis il dit que c'est ce qui permet justement d'offrir un coût raisonnable pour un véhicule exceptionnel.
Mais quand t'as un problème, qu'est-ce que tu fais?
Ben exact, tu sais, comme c'est bien beau, ici à Québec, le seul endroit qui va donner du service, c'est à Montréal. OK, ça me fait de belles jambes, là. T'sais.
Faut l'amener sur un camion puis l'amener,
exact,
à Montréal. Okay,
c'est les ça. Gens aiment faire affaire avec les gens.
Oui.
C'est ce qui fait que la plupart des manufacturiers, on a des concessionnaires dans toutes les petites villes, même pour desservir donc des secteurs éloignés, parce que ces gens-là, ils ont acheté notre produit, ils se doivent d'avoir le même service que la personne en ville. J'imagine bien la personne à Gaspé avec une Tesla s'il arrive un problème.
Ouais.
Wow.
Tesla, dernièrement, on en parle, mais j'ai plein de nouvelles par rapport aux autres. Tu sais qu'ils ont fait une mise à jour dans leur véhicule. Tu parlais de cruise control adaptatif.
Le pilote automatique.
T'as vu le pilote automatique.
Ouais,
t'as vu les problèmes qu'il y a sur Internet avec ça, des gens qui se filment. Et le véhicule, ben, c'est des problèmes logiciels, évidemment. C'est curieusement programmé. Le véhicule, quand on est sur une autoroute, ça va bien. Le pilotage adaptatif automatique qui dépasse, mais quand on est dans des petites voies nationales où c'est une voie uniquement, la Tesla va prendre le véhicule qui s'en vient face à face à toi comme un véhicule à dépasser et à se mettre dans ta voie. Alors il y a plein de vidéos qui sortent en ce moment des gens qui manquent mourir avec un problème logiciel. On disait tantôt.
Mais je vais te dire honnêtement mon opinion là, c'est que la personne qui utilise ça puis qui le laisse aller, ben elle mérite de mourir sérieusement.
Dans un véhicule à 100 000 $.
Tu sais, je te parlais du cruise control adaptatif.
Ouais.
Ok, si il neige, il y a de la gadoue, les chemins sont
pas
vraiment
beaux,
sont pas beaux. Ben c'est sûr que si tu le mets, fie-toi, faut pas s'y fier là, tu sais, dans une courbe, moi j'y fais pas confiance là. Tu sais, il y a quand même l'humain, se doit de rester là. C'est comme quand tu vois les vidéos des gens, tu sais, on a le smart stop là, celui qui permet de freiner s'il y a un obstacle.
Ouais, quand t'as un obstacle arrive en avant du véhicule,
sur YouTube,
ça freine.
Le gens, il y a, je pense, c'est un concessionnaire Hyundai qui fait une démonstration, puis le gars se fait frapper littéralement.
T'sais, okay. Ben, c'est pas drôle, excusez.
Si tu te mets au volant, puis que tu le laisses aller, puis que t'es pas là, je pense que l'être humain va toujours devoir être comme la sécurité là derrière ça, prendre la décision finale.
Il y a plein de niveaux. Au niveau du développement des véhicules autonomes, là, il y a 3-4 niveaux là que je lisais. Les premiers niveaux où l'humain doit toujours être en arrière, des niveaux où l'humain doit peut être en arrière du volant sans forcément toucher le volant. Il y en a plusieurs niveaux, mais c'est sûr que le quatrième niveau, je pense, qui est de l'humain peut se tourner en arrière puis prendre un verre avec ses amis dans le véhicule, on est loin d'y arriver, là, surtout avec les réalités des véhicules hein, puis des routes en soi.
Tout à fait.
Bon, ben, hey, écoute, merci pour tout ce tour de l'automobile canadien-québécois. Toi, moi, un peu de tech, hein, l'éclectique, j'ai réservé 3 applications en typiquement pour l'automobile. Est-ce que toi, il y a des applications que tu utilises sur ton téléphone intelligent?
Ou... Je regarde, ben, j'utilise régulièrement Waze.
Incroyable, hein, Waze.
Je trouve un gros wow.
Ouais, hein.
C'est vraiment superbe comme application.
Alors, Waze, c'est un GPS un peu social.
Exact. Il va dire les différents chemins selon les utilisateurs qui l'utilisent déjà. Donc, c'est un gros wow.
Effectivement.
Tu peux servir même peut-être de dating site ou, parce que tu vois, là, il y a une fille Waze.
De réseau contact.
Tu peux y envoyer un message, non? Fait que c'est... 2-1.
Ah ouais, mais écoute, ouais, j'avais pas vu ça là.
Le seul est, est-ce que tu peux suivre quelqu'un grâce à Waze, hein?
Écoute, moi, les fois que je les ai utilisés, c'était en vacances. Typiquement, dans le coin de Montréal, j'avais trouvé ça super pratique, des embouteillages. Moi, ce que je faisais, c'est que je regardais sur mon Waze, peut-être 4, 5, 10 kilomètres plus loin, s'il y avait encore des gens dans Waze, pour leur demander l'état de la route. Puis quand ils me disaient, regarde, il y a un gros embouteillage, il y a un accident, je sortais de la route. Fait que moi, je l'utilisais pour ça. Mais c'est sûr que, tu sais, j'étais un père de famille, fait que pour trouver des gens, ça m'intéresse un petit peu moins que toi. Ça m'intéresse. Fait que Waze...
Ah, j'avais vu une personne sur Waze qui avait beaucoup de points qui s'appelait Sexy Chicks. Fait que je m'étais dit, peut-être qu'elle avait fait ça pour...
Écoute, c'est un modèle d'affaires qu'on n'a pas pensé.
On va les contacter, on va leur offrir de jouer.
Les cabarets mobiles.
Avec Tinder, là. C'est un match Tinder.
Écoute, très bon. Allez, moi, j'ai une autre application. En fait, est-ce que tu connais Dash?
Oui, oui, j'ai vu, c'est wow, ça aussi. Je sais pas si c'est pratique au day-to-day, mais...
Ben, moi, je l'ai, Dash. En fait, Dash, ce que c'est une application qui se relie avec un petit boîtier ODB2 que vous mettez, que vous branchez sur votre véhicule. Ce que ça permet de faire, ben, typiquement, ça permet de, ben, d'avoir de la télémétrie de votre moteur, voir l'essence, les entretiens, de voir tout ce que les signaux du véhicule vous envoient. Maxime disait tantôt que vous avez des techniciens maintenant en arrière. Ben moi, je suis dans le domaine de l'informatique. Fait qu'enfin, je peux me mettre à faire de la mécanique parce que avec ce module-là, je suis capable de voir les signaux de mon véhicule, si j'ai des entretiens à faire, si j'ai des choses à faire. Ben ça me donne aussi des trucs pour économiser du carburant, mais ça, c'est des vœux pieux. Hein. Des fois, on dit « Ah, je vais essayer d'avoir un bon pointage. » C'est un peu de gamification. Là. T'essayes d'avoir le meilleur pointage. Le meilleur pointage étant une façon de conduire plus écologique. Ça, on y arrive au début, puis après ça, on dit « Hey, fuck, je veux rentrer chez nous. » Je veux rentrer chez nous. Non, ça, c'est intéressant. L'avantage aussi, c'est que ça coûte pas grand-chose à essayer. C'est relié avec IFTTT, qui est un service où vous pouvez relier toutes sortes de connecteurs. Facebook, vous pouvez relier Twitter, vous pouvez relier votre Office, vous pouvez vous générer des statistiques d'entretien de véhicules. S'il y en a qui sont passionnés, ça offre cet avantage-là. Puis en ce moment, il y a une promotion. Pour $29, je pense que vous pouvez vous acheter un petit module pour jouer avec Dash. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui qui est demandé par Dash. Moi, Waze, c'était dans mon top 3 des applications automobiles, Dash. Et puis, ben, j'utilise aussi des fois GasBody. Je l'ai utilisé, mais je l'utilise un petit peu moins. Tu sais ce que c'est, GasBody?
Non.
GasBody, là, ce que ça permet de faire, c'est que ça te dit le prix de l'essence aux alentours d'où ce que t'es. Et puis, ça te calcule typiquement de te dire, ben, si tu t'arrêtes dans 20 km, en bout de ligne, tu vas avoir économisé plus que si tu t'arrêtes tout de suite parce que l'essence est moins chère là-bas. Ou inversement, si tu t'arrêtes tout de suite avec l'essence à ce prix-là, tu vas économiser au niveau du carburant. Fait que ça, c'est toutes des applications qui vous aident à faire des économies, puis ben, vous amuser, surtout rencontrer du monde. Finalement, ouais, c'est ce que je me rends compte. C'est ça que j'étais pas trop à la mode de ça. Au niveau du life hacking, je vous ai réservé quelques articles aussi de life hacking. Vous irez les voir, des affaires un petit peu du bricolage à la maison. Si vous avez un garage, je sais que quand on rentre dans le garage chez mes parents, c'est toujours l'emmerdement. Est-ce qu'on est assez avancé, pas assez avancé? Est-ce qu'on rentre dans l'étagère en le fond et puis on détruit tout? Ben, vous allez voir, il y a des petits trucs là de mettre avec une corde pour pouvoir toujours arrêter le véhicule. Vous allez voir plein de choses au niveau du life hacking. Super intéressant. Et puis, ben, on est bon pour passer à notre prochain sujet. Test de la Nexus Player. Je me suis procuré dernièrement en spécial la Nexus Player. La Nexus Player, c'est quoi? C'est un boîtier Android, Android TV, que vous pouvez brancher sur votre, évidemment, sur votre télé, et qui va vous donner l'accès à Internet, ou en tout cas, l'accès à l'écosystème d'Android. Bon. Alors, comment ça se compose? Ça se compose d'un petit module, je vous dirais gros comme la grosseur d'un CD. Vous voyez ça comme un CD, DVD, là. C'est un rond, en fait. C'est même le même cercle, un peu plus épais. Je vous dirais à peu près 1 cm d'épais sur un diamètre d'un CD noir. Alors, design, c'est très, très beau. Ça vient avec, dans l'emballage, ça vient avec une télécommande Bluetooth qui va plutôt bien et qui est composée de seulement 5 boutons. Alors, un pavé directionnel, un bouton de sélection au milieu de ce pavé directionnel-là, un bouton précédent, un bouton play-pause et un bouton retour à la maison. L'équivalent un peu des boutons qu'on a sur les téléphones Android. Je vais aller tout de suite dans le bouton micro, qui a été la déception catastrophique majeure pour moi. Vous allez voir, ça va mieux aller après, mais au niveau catastrophe, c'est vraiment le bouton du micro qui est censé, quand vous l'approchez proche de la bouche, reconnaître ce que vous dites. Alors, quand on appuie sur ce bouton-là, oui, la transmission se fait bien. Entre la télécommande et le module branché sur votre télé, la transmission se fait très bien. C'est la reconnaissance qui est, excusez-moi l'expression, nulle, mais nulle à chier. Il essayait souvent de retraduire ce que je disais en français en des termes anglais, en des termes de titre de film. Probablement qu'il a il reconnaît les mots que je dis, parce que Google Now, il voit très, très bien au niveau d'Android. Quand on parle au téléphone, il reconnaît la reconnaissance de texte va très bien, la reconnaissance verbale, je veux dire, va très bien chez Google. Mais au niveau de la reconnaissance pour le Google, le Player, le Android Player, le Nexus Player, c'était absolument nul à chier. Alors, allons sur ce qui va bien. Alors, quand vous l'ouvrez, il faut appairer la télécommande après le module. Ça va très, très bien. 2 boutons à sélectionner, la vie est belle. Et puis, tout de suite, ce que vous voyez, vous voyez une suite d'applications en face de vous. Alors, vous pouvez installer, vous avez une espèce de Play Store, l'équivalent de ce que vous avez sur le téléphone Android, pour lesquels vous pouvez installer des applications. Alors, vous pouvez installer les applications qui sont directement dans le Play Store, mais j'ai su par après qu'il y a des listes qui circulent de gens qui auraient testé des applications qu'on peut ajouter, mais qui sont pas directement dans le Play Store. Alors ça, là, ça fait partie de le deuxième point, je dirais le deuxième moins, le point négatif que j'aurais sur un Nexus Player, c'est que c'est pas tout à fait clair chez Google ce qu'on peut installer ou pas. Il y a des listes qui circulent, mais c'est rien d'officiel par rapport à Google. Vous pouvez installer des applications chez Google à partir de du site web, le Play Store, pour ceux qui connaissent, et vous pouvez dire à l'application, installe-toi sur ma tablette, installe-toi sur mon téléphone ou installe-toi sur ma Nexus Player. Ça va très bien, mais il y a des applications qui vont très bien, puis je vais nommer l'exemple de Grand Theft Auto que j'ai installé, mais à partir du Play Store, qui fonctionne très bien sur ma Nexus Player, mais qui n'était pas disponible sur le Play Store. Alors ça, c'est un peu, je vous dirais, le bout où j'ai moins aimé. Alors le premier, c'est vraiment la reconnaissance de la télécommande. La deuxième, le Play Store, où c'est un peu confus, là, où ce qu'on peut installer, ce qu'on peut pas installer, via Internet, pas via Internet. Il y a des listes qui circulent, en tous les cas. Allez dans le forum XDA, vous faites une recherche, XDA, liste d'applications pour Nexus Player. Vous allez avoir tout ce que vous pouvez installer, des gens qui ont fait des tests, vous allez pouvoir vous amuser. Ce bout-là est confus. Toutefois, l'interface, quand vous l'allumez, est très belle. Vous voyez une suite de films, de recommandations de films, des belles pochettes, l'interface est vraiment soignée. Vous voyez ensuite de ça une ligne d'applications, ensuite de ça une ligne d'applications de streaming, en fait. Après ça, une ligne d'autres sortes d'applications. C'est des espèces de rangées de carrés à l'image un peu des tuiles que vous voyez chez Windows. Alors, vous pouvez faire du streaming, YouTube, Crackle, Netflix, Hulu, Google Music, Plex, vous avez toutes ces applications-là, Food Network, toutes les applications, mais tout dépendant du pays. Encore là, un espèce de protectionnisme mondial qui me pue au nez, mais vous n'avez pas tout accès à tout. Alors, je m'explique. Je sais pertinemment que vous pouvez installer des chaînes de télévision sur votre Nexus Player. Exemple, en France, vous pouvez installer iTélé, BFM, toutes sortes de chaînes comme ça, mais vous ne pouvez pas le faire ici au Canada. Ici au Canada, vous pouvez simplement installer The Weather Channel. Puis encore là, c'est pas The Weather Channel comme on connaît, c'est vraiment simplement l'application Weather Météo. Alors, dans les applications de télé faites pour la Nexus Player, au Canada, c'est juste l'application Météo. En Europe ou dans d'autres pays, je sais pertinemment que vous pouvez installer d'autres applications de streaming direct. Ça n'empêche pas toutefois d'avoir des applications... c'est un peu confus, hein. Vous voyez, vous pouvez installer des applications de télé, vous pouvez installer après ça dans le Play Store d'autres sortes d'applications de streaming. YouTube, ça marche. Netflix, ça marche. Crackle, ça marche. Hulu, toutes ces choses-là, ça fonctionne. Mais il y a certains trucs qui ne fonctionnent pas. Alors, au niveau du App Store, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Ça, je vous l'accorde. Au niveau fabrication de l'appareil, la finition, tout est très, très bien fait. Ça, il n'y a aucun problème. Au niveau de la télécommande, de l'ergonomie, tout ça aussi, c'est vraiment bien fait. Vous n'avez aucun problème avec ça. Vous allez pouvoir bien naviguer, pas besoin d'apprendre ou d'avoir lire le manuel. Ça va très bien aller. C'est vraiment au niveau des applications, il faut fouiller, il faut regarder un peu ce qui se fait. Bon, si toutefois vous savez exactement ce que vous voulez YouTube, vous voulez Dailymotion, vous voulez avoir VLC, vous voulez lire vos choses sur votre disque dur en réseau, ça va super bien marcher. Au niveau des applications, ben, il y a aussi les jeux que je veux mentionner. Alors là, il y a deux types de jeux. Il y a les jeux que vous pouvez jouer avec la télécommande de base qui vient d'office dans le boîtier quand vous l'achetez, ou il y a des jeux qui nécessitent absolument la manette de jeu qui est en surplus. La manette de jeu n'est pas très chère, mais c'est quand même en surplus. Alors, il faut vous attendre à payer 50$, 40-50$ pour avoir la manette de jeu pour pouvoir jouer à certains jeux. Alors, encore là, il y a toutes sortes de jeux. Il y a des jeux qui se jouent très bien à la manette. Il y a des jeux qui se jouent plus ou moins bien, mais ce que je regrette, c'est que quand je l'ai donné à mon enfant pour pouvoir jouer, alors je suis pas très familier avec Android, je dois vous dire, là, il y a plusieurs jeux qui étaient gratuits, d'apparence gratuite, puis vous connaissez, hein, sur les téléphones maintenant, c'est la grosse mode sur les tablettes, c'est des jeux que on paye en fonction de du niveau qu'on veut atteindre, hein, des freemium, mais pas vraiment freemium, tu sais, le jeu est gratuit, mais il faut payer pour avancer. Ben, avec la télécommande, puis mon fils, au niveau de la télé, ça a été un problème. J'ai eu des sueurs froides des fois qui a failli acheter des surplus, des bundles supplémentaires de jeux. Alors, faut faire attention. Faites attention si vous laissez la télécommande à votre enfant avec des jeux que vous savez qu'il demande une carte de crédit après, ben, ça pourrait aller assez vite. Mais une chance, dans le salon, on est toujours en arrière des enfants habituellement. Alors ça, c'est le bout un peu flou. Bon, les jeux, c'est pas fameux. C'est pas du gros jeu PlayStation 4, Xbox One, non. C'est des bons petits jeux. Je vous ai dit, j'ai réussi à installer Grand Theft Auto, que j'adore, mais il a fallu que j'aille sur un forum pour comprendre comment l'installer. Alors, au niveau accessibilité, il y a vraiment quelque chose là de mauvais. Mais une fois que tout est installé, ça fonctionne très bien. Streaming, les disques durs réseau, tout ça va très bien. La télécommande pour jouer à des jeux, la télécommande d'Asus que vous achetez en surplus à 40$ va aussi très bien. En somme, je vous dirais que j'aurais pas acheté ce module-là s'il avait été au plein prix comme il l'était à 130$ un bout de temps chez nous. Je l'ai eu à 80$. Je trouvais que ça valait la peine. Je trouve que ça va bien au-delà de l'Apple TV 3e génération. J'ai hâte de voir la 4e génération pour me faire une idée là-dessus. Mais, à tout le moins, de tous les Nexus Player, pas Nexus Player, mais de tous les Android TV que j'ai pu acheter en Chine à 50$, 100$, j'en ai acheté 4, testé 4, acheté 2, testé 4, je vous dirais que c'est vraiment une des meilleures. Parce que l'ergonomie est là beaucoup mieux qu'un Android TV ou un stick que vous pouvez acheter sur un site chinois. Et puis en bout de ligne, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir Twitter ou Facebook directement dans sa télé. Ça va encore là prendre des usages différents pour la télé comme pour la montre pour qu'on s'y intéresse vraiment à d'autres sortes d'applications. C'était ma critique de la Nexus Player. Je vous la recommande, mais en spécial, ne l'achetez pas au plein prix. C'est pas encore un produit, en tous les cas, c'est pas une plateforme encore matures. On voit qu'ils ont des beaux efforts d'ergonomie, soit, mais au niveau des applications, c'est vraiment pas soutenu. Il n'y a pas beaucoup d'applications au niveau canadien, en tout cas. Je ne sais pas ce que c'est en Europe ou aux États-Unis. Au niveau canadien, c'est pas fameux. Mais pour ce que ça a à faire, streamer des choses, afficher des vidéos à partir de mes disques durs en réseau, du YouTube, tout ça, ça va très bien. En prime, ben, à 80$, je peux pas trop me plaindre parce que un Chromecast ici, ça vaut une quarantaine de dollars canadiens. Ben, ce qui est cool, c'est que la Nexus Player devient aussi un Chromecast. Alors, vous pouvez caster directement de votre téléphone. Ce qui fait que, dans les faits, si vous vouliez une Chromecast, puis vous avez un petit budget supplémentaire, ben, pour 40$ de plus qu'un Chromecast, ben, vous avez le Nexus Player. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Pour 40$, achetez-le, les yeux fermés. En fait, pour 80$, achetez-le, les yeux fermés. Vous aurez à tout le moins un bon Chromecast et puis un bel appareil pour pouvoir jouer à certains jeux et interagir avec votre télé. Voici, c'était mon test de la Nexus Player. Bonjour, bienvenue dans l'Éclectique Show, en fait l'Éclectique Capsule. Je vous ai déjà dit que je voulais modifier un peu le format de l'émission pour avoir des sujets intéressants et aussi des intervenants. Ben, le premier intervenant est là aujourd'hui, il s'agit de Guillaume. Et comment on prononce ton nom de famille, Guillaume?
C'est Marcadet, mais on peut dire Marcadet, ça ne me gêne pas.
Okay. Marcadet. Alors, Guillaume Marcadet, qui est avec moi en ligne avec Skype en ce moment. Et, bon, grosso modo, pour vous expliquer, pour faire court, j'ai découvert Guillaume sur Twitter parce que son handle name, c'est -52. Alors, on va lui demander pourquoi -52. Puis aussi, ben, en fouillant son profil, parce que quand les gens s'abonnent, puis quand on parle avec des gens sur Twitter, ben, généralement, on fouille les profils. Puis j'ai trouvé qu'il avait un site web qui était référencé qui s'appelait plana.ca. Alors, ça m'a intrigué. Plana.ca, ça sonnait un peu tech, un peu geek. Alors, j'ai été voir. Puis je me suis aperçu que c'était un site pour faire des économies, pour trouver le meilleur plan cellulaire au Canada. Alors, pour ceux qui m'écoutent d'Europe, vous ne le savez peut-être pas, mais au Canada, on se fait assez voler sur les plans cellulaires au Canada. Et puis, ben, je trouvais que Plan Hub était une super idée pour économiser. Alors, ben, bonjour Guillaume, bienvenue dans la capsule.
Merci, bonjour.
Ben, on va parler un peu de ton site, le planhub.ca, qui va sûrement sauver beaucoup, beaucoup d'argent à tous les Canadiens. D'abord, c'est quoi ça, planhub.ca? Planhub, planhub.ca.
OK, ben, Planhub, c'est un comparateur de forfaits cellulaires. J'ai l'habitude de comparer pour que les gens comprennent à Expedia. Expedia, c'est un comparateur de billets de billets d'avion. Ben, nous, on fait exactement la même chose, mais pour les forfaits cellulaires.
Bon, ça, pour ceux qui ne le savent pas, ben, au Canada, je l'ai déjà dit, mais je pense que je vais marteler encore, on n'a pas assez de ces gens-là qui font des comparaisons de forfaits cellulaires. Il y a des fois, Protégez-vous, qui sort annuellement une espèce de grille. Protégez-vous, c'est un guide du consommateur chez nous au Canada pour nous aider à trouver les meilleurs forfaits. Ben, là, Plan Hub, lui, il fait en ligne. Depuis combien de temps ça existe, ça, Plan Hub?
On a lancé depuis un an environ. Le site est disponible depuis à peu près un an.
OK. Et puis, comment ça fonctionne concrètement? Moi, je suis un consommateur, je vais sur Plan Hub, puis comment je fais pour trouver mon meilleur forfait?
Le plus simple, c'est de connaître son besoin. Alors, connaître son besoin, il faut regarder sa facture de son opérateur actuel. Puis là, on rentre simplement le nombre de minutes d'appels qu'on désire, le nombre de données en termes de gigaoctets ou de mégaoctets, puis l'appareil qu'on souhaite avoir, donc par exemple l'iPhone 6S. Puis on appuie sur « Rechercher ». Et on va vous donner les meilleures options pour chaque opérateur classé par prix. Ce que je veux dire par meilleure option, c'est-à-dire qu'on va comparer le forfait, mais aussi les options. Des fois, on a des petits add-ons qu'on peut mettre sur les forfaits pour ajouter un gig de data par-ci par-là. On va dire si c'est plus intéressant de prendre le petit forfait avec le add-on à un gig de data ou alors de prendre le forfait supérieur.
Ouais, c'est absolument génial parce que des fois on exclurait un forfait qui est peut-être plus intéressant en bout de ligne avec toutes ces petites options là. Alors au moins tu relèves ça avec ton algorithme. j'imagine que c'est une recette très secrète chez vous, parce que quand on fait la recherche sur le site, il y a une espèce de barre de temps qui défile, puis là, ça a l'air à vraiment travailler. Vous mettez ça à jour souvent, votre banque de données, avec tous les fournisseurs?
Oui, alors ils mettent à jour les fournisseurs mettent à jour régulièrement leur site. On essaie de faire ça une fois par semaine. On a une personne qui fait ça une fois par semaine.
Ok.
On a des robots qui vont crawler les sites des opérateurs, puis qui nous remontent des notifications quand il y a des modifications.
Ok.
Donc, voilà. Puis après les informations sont rentrées manuellement parce que ça serait trop compliqué de tout automatiser. C'est pour l'instant c'est pas possible. Mais on travaille fort pour faire ça.
Alors, concrètement, moi, si je suis consommateur, je peux pas avoir les mêmes prix que sur plan.ca, c'est ça?
Si, c'est les sites, pour l'instant, on affiche les forfaits qui sont disponibles okay. sur les sites des opérateurs.
Okay.
Donc, c'est les prix catalogue, entre guillemets.
Okay.
Par contre, ce qu'on a lancé, dernièrement, c'est une fonction de rappel. L'idée derrière ça, c'est que, on peut rentrer son adresse courriel, sa date de fin de contrat, puis là on va vous rappeler environ un mois avant la fin de votre contrat pour vous rappeler d'une part de magasiner. Puis ce qu'on espère faire à travers ça, c'est aussi d'aller négocier nous pour les gens. On sait qu'il y a X personnes qui cherchent tel type de forfait. Ben on va taper à la porte de tous les opérateurs et dire offrez-nous un forfait avec un rabais négocié vraiment super compétitif et vous allez pouvoir gagner ces X nouveaux utilisateurs.
OK, fait que concrètement pour le moment, vous offrez la possibilité de sur un site voir les meilleurs forfaits en fonction de nos besoins et plus tard dans l'évolution de plan A, ça va être en plus de faire des regroupements de clients, c'est ça?
Ouais, de l'achat groupé comme on dit on va négocier, on va utiliser en fait la puissance de la communauté pour négocier les forfaits vraiment au rabais.
Ah ben écoute, complètement génial. Vous êtes combien dans la petite start-up?
On est deux à plein temps et puis il y a des gens qui viennent nous aider pour l'instant. On est environ cinq. Donc c'est très très petit et puis c'est très récent on va dire.
Et puis vous êtes à Montréal, ce que j'ai compris.
Oui, on est à Montréal, c'est ça.
Bon, ben fantastique. Écoute, merci beaucoup à planhub.ca. Écoute, on pourrait être bien transparent avec les auditeurs là. Personne me donne aucun cachet pour dire ça là, mais merci beaucoup parce que franchement, au Canada, ça va en prendre de plus en plus d'initiatives comme ça pour faire baisser les prix au niveau qui est de ce qu'il y a en Europe. Est-ce que pour toi, au niveau des prix, tu trouves ça ahurissant ce qu'on a au Canada parce que je détecte un accent, fait que tu viens de probablement d'ailleurs.
Ouais, effectivement, je suis français. Je suis arrivé au Canada il y a 3 ans et demi, et c'est exactement ça. Quand je suis arrivé ici, bah, j'étais un peu perdu parce que il y a une dizaine d'opérateurs rien qu'au Québec, et puis il y a des opérateurs qui sont par province au Canada. C'est un petit peu compliqué. Puis là, ça fait beaucoup d'informations. Il y a pas beaucoup de compétition. Les prix sont effectivement très chers par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Et puis ça m'a paru comme il y avait quelque chose à faire là derrière, donc c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative là. Et on espère que ça va faire bouger un peu les choses, ramener un peu de compétition à Noël.
Ah effectivement, ben justement, est-ce que t'as des retours des fournisseurs d'accès? Comment ils voient des fournisseurs de téléphone? Est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil ou ils se font ah merde un Français qui vient faire chier notre paradis notre paradis depuis qu'on avait au Canada? Est-ce que t'as des retours de ça ou tu sais?
Bah des opérateurs, ça dépend. Alors les opérateurs qui pratiquent les prix les moins chers, ils nous voient plutôt comme une aide là. Forcément ils arrivent en tête du
bah, oui.
sur le comparateur, donc là ils sont contents. Pour l'instant, les retours qu'on a de d'autres opérateurs, les gros opérateurs, ceux qui sont les opérateurs historiques, on va dire, eux, ils nous ignorent, soit ils trouvent que notre comparateur n'est pas pertinent parce qu'on donne pas les bonnes informations, on induit les gens en erreur, etc. Honnêtement, il y a des choses qu'on pourrait améliorer parce que on n'intègre pas toutes les informations, notamment la qualité du service client. Enfin, tu connais probablement les arguments qu'on entend régulièrement là, de ces gros opérateurs. On a le meilleur service client,
ben ouais,
on a le meilleur réseau, Ils ont tous le meilleur réseau, tous le meilleur, le réseau le plus étendu et le meilleur service client du monde.
Ouais, puis c'est en ça qu'ils aiment pas se faire comparer, parce que avec ton site, ton système de plan hub, votre système de plan hub, ben vous les mettez tous au même piédestal, puis je peux comprendre un opérateur de pas apprécier ça. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, Guillaume, pour votre initiative, pour votre startup longue vie à planha.ca. Je vous le dis, je suis pas payé pour le dire, mais maudit que j'apprécie cette initiative-là. Et puis, votre idée de rappel, vraiment super géniale. Merci d'améliorer nos réseaux et nos prix surtout, et puis notre pouvoir d'achat au Canada. Merci beaucoup, Guillaume.
Ben, de rien. Merci à toi de m'inviter. C'est vraiment sympa.
C'est bon. Fait que pour tous ceux qui veulent trouver un bon forfait cellulaire ou en tout cas trouver le meilleur rapport qualité-prix, ben Plan Hub est là. Planhub.ca est là pour vous.
Bon, hey Maxime, habituellement dans l'éclectique, je parle de livres. Et inquiète-toi pas, c'est pas du Molière. C'est des affaires... Oui, on va pas s'endormir. Je parle de livres plutôt pratiques. C'est généralement pour avoir des trucs. Dernièrement, j'ai lu un livre sur 150 trucs pour manipuler les gens. Je te le conseille. Il est excellent. Il est vraiment excellent.
Ma blonde, y connaissait tous.
Là, je vais te parler du livre Brief de Joseph McCormack. Je me la péterai pas. Ça fait juste une semaine que je l'ai et j'ai lu 10 pages. Non, c'est pas vrai. J'ai lu pas beaucoup de pages, mais j'ai lu...
La dernière au moins.
j'ai lu les trois premiers chapitres qui sont super intéressants. Brief, c'est quoi? C'est une recommandation qui m'a été faite par Mike de Niptech. Brief, c'est... L'essentiel, c'est d'être bref. On sait quand on parle à des gens, c'est d'être bref, tu vois. Quand on parle à des gens, notre capacité moyenne est de 150 mots minute. Mais notre cerveau est capable d'en capter 750 à la minute. Ce qui fait un différentiel de 600 mots minute. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ben souvent, les gens s'égarent complètement ou t'es pas capable d'avoir la personne super très attentive à ce que tu dis. Dans le livre, c'est le constat des premiers chapitres qui fait, c'est que on est de plus en plus stimulé avec les téléphones, les montres intelligentes, les SMS, des nouveaux moyens de technologie ont fait que on est de moins en moins attentif. Et de base, l'humain est fait pour parler juste 150 mots, mais être capable d'en traiter 750 à la minute.
Tu vois, c'est une des premières notions de vente, hein?
Ouais.
C'est qu'on a deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter deux fois plus qu'on parle. Souvent, on croit qu'un vendeur, c'est un bon vendeur, puisqu'il parle beaucoup. Et un bon vendeur, c'est quelqu'un qui écoute davantage que de parler.
Ouais, c'est pour ça que je fais un podcast tout seul. Je suis mauvais.
C'est ça.
Alors, tu vois le différentiel. C'est bon que le lien que tu fais avec la vente, parce que je vais te demander des petits trucs après, là. Ben, c'est sûr que le nombre moyen d'interruptions des travailleurs par jour est de 60. Tu sais, je te regarde, regarder ta montre intelligente, là. On est en moyenne dérangé dans une journée 60 fois. Hors travail. Ce qui fait en moyenne, c'est une journée de travail typique, là, qu'on travaille aux 8 minutes. Pas trop payant. C'est pas trop payant pour un employeur. Combien de temps ça te prend pour revenir à ton travail puis être focus? Exemple, toi, tu travailles sur un contrat, tu travailles sur un partenariat. Ça te prend pour revenir après une interruption 25 minutes. Fait que là, on a un problème. Parce que t'es dérangé aux 8 minutes, mais pour être bien concentré, ça te prend 25 minutes. C'est assez incroyable. Ce que ça coûte, parce que ils ont quantifié, puis là c'est pas des données qui viennent de n'importe où, là c'est des universités de Harvard, de Stanford qui ont étudié ça. Ça coûte en ce moment à chaque année 588 milliards aux entreprises le fait que les gens sont de moins en moins focus, le fait que les gens sont de plus en plus interrompus. Il y a des problèmes aussi avec ça. Ben, on a parlé des moyens de communication. En moyenne, une personne gère 304 courriels par semaine, 150 le nombre de fois que la personne va regarder. 150 fois, tu regardes ton smartphone. Puis je suis sûr qu'on a augmenté maintenant avec les montres intelligentes.
Ah, c'est sûr.
C'est incroyable.
Parce que c'est tellement petit qu'on regarde la montre pour ensuite regarder le téléphone.
Vous remarquerez, hein, quand je le disais à Maxime tantôt, vous remarquerez, avant avec les téléphones intelligents, que tu avais une réunion importante, tu avais l'air du gars qui écoutait pas trop, qui était capable de faire deux tâches en même temps. Mais maintenant, quand tu regardes ta montre intelligente, tu n'as plus l'air du gars qui est capable de faire deux tâches en même temps, tu as l'air du gars qui s'emmerde complètement à la réunion. Faire attention sur regardant les montres intelligentes. En passant, là, les patrons, généralement, les chefs d'entreprise, les chefs d'équipe sont évidemment de plus en plus interrompus. Ils passent en moyenne 85%, les CEO aux États-Unis passent en moyenne 85% de leur temps dans des événements publics, dans des réunions, à regarder leur courriel, mais pas à travailler sur leur entreprise. Ça, c'est un gros problème. Un autre gros problème, ben là, le fait, là, on vient de faire état, là, dans le livre, au début, ils font état qu'on est dérangé, on est très, très, très dérangé, mais au niveau cognitif, il y a des gros, gros, gros impacts. Depuis les 5 dernières années, de ce que j'ai lu dans le livre, on est passé à une attention, à l'attention minimale à une personne est passée de 12 à 8 secondes. On a perdu, dans les faits, 4 secondes d'attention quand on est capable de parler à une personne dans une minute. C'est juste assez incroyable en 5 ans. Puis il disait aussi que, en moyenne, au niveau de ton QI, au global, on aurait perdu à peu près 10 points en moyenne globale de QI.
Ça fait qu'il y en a qui sont pas hauts.
Ben, c'est ça.
Il y en a plusieurs, c'est pas loin de chimpanzés.
Écoutez, je vais vous faire des retours sur la suite parce que dans le livre, ben là, il dit, mais vous inquiétez pas, l'attention, le focus, ça se travaille. Il y a des trucs, c'est comme un muscle, ça se travaille. Puis en bout de ligne, le livre, là, vous explique qu'il faut être bref. Il vous explique que on peut travailler son focus, son attention de un, mais de deux, ben on peut pas le changer pour les autres. Fait que pour pouvoir avoir l'attention des autres, il va falloir développer des nouvelles techniques, d'être bref, d'être right to the point, de développer des arguments intelligents, concis au bon moment pour pas ben emmerder l'autre, pour pouvoir faire tes ventes, pour pouvoir faire ton pitch pour un nouveau projet, pour pouvoir faire tout ça. Alors je vais vous en donner des nouvelles, mais brief, pour l'instant les 3 premiers chapitres sont juste absolument hallucinants. Aussi, si vous inscrivez sur le site de l'écrivain de ça, vous avez les 2 premiers chapitres gratuits, puis des outils pour vous aider à comment écrire, à rédiger un courriel. Le truc, je vais vous le montrer, là, je vais vous le dire. Écrire un courriel qui frappe, ben c'est simple, essayez de faire ça comme un tweet. Un tweet, on sait, c'est 140 caractères. Ben, ça force la personne à être concise puis à être focus dans ce qu'elle veut dire et juste aller vers l'élément qui vous importe. Toi, Maxime, tu dis en communication, on a 2 oreilles, 1 bouche. Pour finir l'émission, t'as-tu des trucs de communication que t'as développé avec les clients ou des choses que tu peux nous donner quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un ou des tactiques que les vendeurs auraient pour nous convaincre d'acheter qu'il faut pas tomber dans le panneau?
Ben, le premier truc, c'est lorsqu'on rencontre un nouveau client, c'est la poignée de main sincère et de se présenter.
Ouais.
Donc, une bonne poignée de main, un regard dans les yeux pour montrer justement qu'on est sincère puis qu'on désire servir le client. Nommer son nom et demander le nom du client et essayer de le répéter le plus régulièrement possible afin qu'il rentre dans la tête. Ça me sidère de voir les représentants qui, après une discussion de 30, 40, 50 minutes avec un consommateur, ton client s'appelle comment?
Mais tu sais aussi pourquoi hein, ça? Parce que l'humain est très narcissique. On aime entendre son nom.
Ah oui, tout à fait. C'est la chose qui est la plus douce à notre oreille.
Ouais.
Notre prénom, notre nom.
Exact.
Puis même de nos jours, on forme nos spécialistes Internet, parce que ça, c'est une autre facette qui n'existait pas dans l'automobile, mais on a des spécialistes Internet pour répondre aux questionnements que les consommateurs ont sur nos sites. Et la réponse commence toujours par le prénom, si on l'a. Donc, bonjour Mathieu, j'ai reçu ta, puis on continue. Parce que puis si on appelle, par exemple, s'il y a un numéro de téléphone, c'est pas bonjour Monsieur X, ça va être bonjour Mathieu.
Fait qu'on personnalise.
Concernant votre... Puis, ça marche. C'est vraiment de... Écoute, 72% de la décision d'achat est sur le représentant. Donc, 72% des gens prennent une décision par rapport au représentant.
Pas le produit, pas le service.
Ben, ce qu'ils ont tiré dans ta business, c'est le produit, bien sûr. Mais ce qui va faire la distinction entre toi puis ton compétiteur, c'est le représentant. Puis souvent, on le néglige. Je vois combien d'entreprises qui mettent quelqu'un là pour avoir quelqu'un là. Ben, même au salaire minimum, c'est trop cher à payer pour cette personne-là. Même plus cher et quelqu'un de compétent parce que cette personne-là a un impact direct. Donc, une bonne poignée de main, se présenter. Écoute, moi, je suis dans le domaine automobile. C'est bien sûr que la première partie, c'est ça se trouve d'être dans la salle de montre qu'on appelle showroom. Donc, faut faire un show.
Est-ce que vous avez des tactiques là, pour aborder le vendeur? Parce que moi, je sais que pertinemment, je suis plus le profil là. Je veux regarder mon truc, laisse-moi tranquille. Est-ce que vous avez des tactiques pour des clients comme moi?
C'est là qu'on a développé, contrairement à il y a plusieurs années, le poste d'hôtesse à la réception. Donc, l'hôtesse, c'est une jeune fille, une femme.
De préférence?
De préférence. Parce que souvent, ça va être allié avec le poste de réceptionniste. Donc, ça va donner souvent que ça va être un poste où ce qu'on va avoir des jeunes filles qualifiées.
Mais tu sais
que je veux pas faire de sexisme, mais si non, j'aurais bon jeune homme qui se présenterait, je le considérerais, mais souvent effectivement, on a des jeunes filles qui sont hyper qualifiées, qui ont terminé un cours en secrétariat, qui vont donc faire le poste de réceptionniste.
Mais c'est brillant parce que les études, j'ai plein d'études, je pourrais te le montrer, les femmes ont plus tendance en automobile, surtout dans le domaine financier, la vente, l'assurance, les femmes se reconnaissent avec d'autres femmes. Alors, en grosso modo, si tu veux réussir à vendre à une femme, ben, ça va être beaucoup plus facile, la première approche, avec une autre femme. Et puis, les hommes sont séduits par les femmes.
Tout à fait.
Fait que ça marche dans les deux
cas. C'est un win-win.
Exact.
Donc, on a le poste d'hôtesse, qui a été créé, qui est donc une personne qui n'est pas demandeuse, qui n'est pas pour mettre de la pression, qui va tout simplement demander quel type de client êtes-vous. Bonjour, première visite chez nous.
Ah, OK. Atteste un peu, voir
exact.
Ce que c'est.
Là. Et voir un produit en particulier. Donc, tomber sur un client comme toi qui dirait « je viens jeter un œil. »
Je veux juste regarder.
Exact. Ouais. Ben, parfait. Prenez le temps que vous désirez. Mon poste est juste là. Quand vous serez prêt à avoir de l'information, allez plus loin dans votre démarche. Venez nous rencontrer.
Fait que je me sens pas agressé. Fait je peux
si
magasiner.
Si tu veux passer une demi-heure, t'asseoir dans chaque véhicule, ben, tu peux le faire. Fait que ça, c'est la beauté. Ça, c'est un poste qui a été créé parce que, justement, de nos jours, on a étudié depuis des lunes les types de consommateurs, donc afin de s'adapter à chaque consommateur.
Est-ce que les consommateurs sont moins sociaux? Est-ce qu'ils sont plus comme moi maintenant ou il y a toujours eu à peu près la même quantité? Là,
il y a la même quantité. Il y a les quatre là, types de...
Ah ouais, c'est quoi?
Ouais, écoute, ça remonte à loin, mais tu sais, t'as le rouge qui est un dominant.
Ok.
Ensuite,
qui veut t'en apprendre, qui veut l'apprendre.
Oh, ouais, lui, okay, c'est regarde tout. Lui là, il sait comment ça s'achète un auto, il sait comment mener. T'as l'analytique, celui qui vient avec son cartable, avec son pad là, de notes.
Ouais,
qui,
je veux les chiffres,
exact,
les métriques.
Exact. Qui est sur internet, puis qui il fait son propre guide de l'auto là. Il se fie pas là, tu sais, à Jacques Duval. Mais lui là, il va reprendre toutes les informations, puis il va mettre les codes de consommation, puis il va faire son choix. T'as ensuite le aimable qui est un gars sympathique qu'on veut tous comme client, trop fin, trop gentil.
On signe trop vite.
Ouais, des fort fois. Probablement. Puis il est trop gêné pour te rappeler puis te dire j'ai signé trop vite, donc on va en prendre possession. Ça, c'est le client sweet. Donc, l'autre, ça remonte à loin, je me rappelle pas trop c'est quoi.
Mais il y a quatre types de clients.
Il y a quatre types, là. Puis si vous faites des recherches, vous allez les trouver. Mais donc, c'est là que l'hôtesse a son importance et qu'elle va déceler un petit peu quel type. Si on a un rouge, on va aller chercher un représentant qui va être un petit peu plus habilité avec ceux-là. Ouais, tu sais, un gars qui... Puis les rouges, ils aiment ça, ils mènent, on leur donne... on les fait imaginer qu'ils mènent de A à Z. Nous, donc, on va les gérer à notre façon.
Fait que le tri se fait en amont maintenant avec une hôtesse qui adapte le ça prend des personnes assez dont le pif sensoriel est assez développé là. Tu peux pas être n'importe qui fait une bonne hôtesse dans une entreprise, j'imagine.
Non, ça prend quelqu'un qui est quand même très à l'affût, je pense, d'être capable de décider quel type de clientèle. Ouais, ça prend quelqu'un de sympathique, ça prend quelqu'un qui prend pas personnel, parce que les gens sont bêtes. Les gens rentrent, puis souvent, ils ont une armure épaisse là en béton, parce qu'ils ont peur, hein, les vendeurs.
Ils sont du bon monde, mais ils ont peur des vendeurs, c'est
exact.
Ça.
Exact, donc on dirait qu'ils ont des appréhensions avant de venir. Puis à partir de là, on doit, nous, essayer de briser ça, puis d'être fin, gentil, aimable, c'est le secret d'un vendeur. Puis rentrer puis se faire aimer parce que principalement on achète des gens qu'on aime. Hein.
Oui, tout à fait. Puis peux-tu nous donner un bon truc là, pour être un bon client? Tu nous parles de bon vendeur, mais un bon client, c'est quoi un bon client?
Ben un bon client, c'est quelqu'un qui répond aux questions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le représentant est pas là pour pogner le consommateur. Tu sais, l'idée, c'est pas de vendre une voiture, c'est d'en vendre une deuxième, une troisième, d'avoir des références. Parce que c'est le gros de la business. Donc, souvent, je vois des consommateurs qui se recognisent eux-mêmes, puis OK, c'est quoi votre budget mensuel?
C'est un secret. Ouais, c'est ça.
OK, va voir le médecin, dis hey doc, je suis malade, je file pas. OK, vous avez quoi comme symptômes? Je te dis pas. Est-ce qu'il va pouvoir t'aider?
Non.
Ben, c'est un petit peu le même principe. Va avoir un planif financier. J'aimerais ça avoir un million dans plusieurs années. Parfait, vous êtes prêt à mettre combien? Je te dis pas. Tu sais, il pourra pas t'aider. Donc, le conseiller automobile est là pour t'aider. Tu sais, c'est quoi? C'est pour quel usage? Quel genre de kilométrage? Vous pensez mettre combien mensuellement? Tu sais, idéalement.
Fait que soyez transparent avec le vendeur. Puis si aussi ça fait pas, c'est pas pire que ça. Pas pires amis, là.
Ben non, regarde, on tire pas personne. J'ai jamais vu encore un vendeur sortir un gun et tirer le client, puis vice-versa. Et le meilleur conseil que j'ai à donner à un consommateur qui se promène afin de d'être sûr d'avoir une bonne transaction, c'est un de magasiner le véhicule sans son véhicule d'échange. Se faire un prix.
Alors, typiquement, si j'arrive dans un... Moi, je veux changer mon véhicule, mais je dis, je veux le prix sans que tu reprennes mon véhicule que j'ai présentement, c'est ça?
Ok. Se faire un prix, puis par la suite... j'ai un véhicule à inclure dans la transaction.
Là, on a le juste prix.
Ouais, une fois que, si le prix vous convient, souvent, votre véhicule d'échange ne fera pas la différence entre ne pas l'acheter ou l'acheter.
Exact.
Si vous êtes capable de, d'avoir une idée.
Au pire, là, vous pouvez vous revirer de bord puis le vendre vous-même.
Si exact.
Vous,
okay, mais ouais. Là, donc, vous allez être sûr d'avoir donc une bonne transaction, tant dans l'achat du neuf que pour la valeur du vôtre.
Mais c'est pas un peu contradictoire avec ce que tu viens de dire, d'être transparent, mais de pas le dire, ça, cette information-là, ou d'y dire, regarde, calcule-moi. Tu peux le dire à ton vendeur.
Ouais, ouais, tu peux le dire, parce que tu sais, quand je dis d'être transparent, c'est pas de donner ton carnet de chèque en rentrant. c'est vraiment une notion de travailler avec le représentant afin qu'il trouve le meilleur véhicule pour tes besoins. Là, ce que je dis tout simplement, c'est que si on veut être intelligent, si on veut considérer plusieurs concessionnaires de la même marque, afin d'avoir une juste idée, ben tu fais faire un prix pour le véhicule neuf, un prix pour ton véhicule d'échange, puis là tu prends la décision. Puis souvent, ce que je conseille, commencez pas si vous avez l'idée de faire plusieurs concessionnaires. Commencez pas par le plus près de chez vous, celui avec qui vous voulez faire affaire.
Pourquoi?
Parce que souvent, lui, ben, écoute, sa business, c'est de vendre un véhicule puis de faire bien sûr un profit. Il doit te servir pour les X prochaines années. Donc, si on n'en fait pas en avant, on n'en fait pas en arrière. Mm. Et là, souvent, les gens, donc, vont avoir un excellent service de ce concessionnaire-là, vont aller, donc, sur le deuxième plus près et le plus loin, finalement, et ils vont acheter chez le plus loin parce qu'ils ont le jeu de cartes des deux autres. Ouais. Fait que là, ben, le plus près de chez moi m'a fait tel prix, le deuxième m'a fait tel prix, et toi, qu'est-ce que tu fais?
Fais l'inverse pour avoir le service le plus proche.
Faites l'inverse, exact. Allez chez celui chez qui vous voulez pas acheter, puis finissez par celui chez qui vous voulez faire affaire. Puis à partir de là, donc, vous pourrez prendre une bonne décision puis faire affaire près de chez vous sur tout ça.
Ah, le marché local. Écoute, Maxime, c'était un vrai plaisir de faire ça avec toi, d'enregistrer une émission, une capsule sur l'automobile. J'avais promis en intro qu'on ferait du whisky, je l'avais noté. Finalement, on va se reprendre pour le whisky, on va te dépasser.
Je t'avais dit amateur de whisky, donc un amateur, ça connaît pas ça.
De un, et de deux, pour que les gens le sachent, son chien s'appelle Whisky, fait que il a confondu.
J'étais un amateur de chien, parlons de bagel.
Alors, merci beaucoup, Maxime, c'était vraiment
un plaisir.
Ciao, ciao.
Voilà, c'est ce qui termine l'Éclectique 18. Je voudrais remercier Guillaume de Plan Hub. Je voudrais remercier Maxime d'être intervenu aussi longtemps, de m'avoir accueilli chez lui avec tout mon équipement de micro. C'était vraiment plaisant. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à le faire. Je voudrais vous rappeler que d'échanger sur le site web, ça va être intéressant, voir si vous avez d'autres trucs vous à partager par rapport à ça. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller sur le site web eclecticshow.com. Vous pouvez aller sur la page web Eclectique Show, la page Facebook, le compte Twitter. Vous pouvez échanger là-dessus, c'est vraiment, vraiment plaisant. Évidemment, des petites notes sur Québec Balado, sur podcloud.fr ou sur iTunes. D'ailleurs, je voudrais remercier Mathieu Rancourt du podcast Soif de savoir, un super bon podcast québécois, si vous voulez apprendre des choses sur l'actualité ou des choses tout court, qui dit « Super bon podcast, on apprend beaucoup. Bonne continuation aux profs du web. » Alors, merci Mathieu de Soif du savoir. Et puis, on se retrouve d'ici 2 à 3 semaines, tout dépendant la santé familiale, et puis encore là avec d'autres intervenants. Allez, merci. Ciao. Bye-bye.